Bonjour mes frères et sœurs, je vais vous faire une lecture dans la première épître de Jean. Jean était un des disciples de Jésus, il est mort maintenant, ça fait 2000 ans, hein, et il se repose de ses œuvres, mais quand il était vivant, il a donc écrit à des amis, à des gens chrétiens, et il dit, je vous lis dans 1 Jean chapitre 1, ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de la vie, nous vous l'annonçons. C'est-à-dire, nous avons vu Jésus. Jean, il dit, j'ai vu Jésus, je l'ai touché, je l'ai contemplé, j'ai écouté sa parole, je l'ai vu avec mes yeux. Il dit, maintenant, nous vous annonçons cela. Il dit, la vie, en effet, s'est manifestée. Nous l'avons vu, nous en sommes témoins, et nous vous l'annonçons, cette vie éternelle qui était auprès du Père et qui s'est manifestée à nous. De qui parle-t-il? Ben, il parle de Jésus qui était auprès du Père et qui est venu sur terre, qui s'est manifesté à eux. C'est-à-dire, il est venu sur terre dans un corps de chair, il a choisi ses disciples, dont Jean, et puis Jean l'a vu, l'a touché, l'a mangé avec lui, ils ont beaucoup voyagé, et puis il dit maintenant, il s'est manifesté à nous et nous vous l'annonçons. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous soyez vous aussi en communion avec nous. Ça veut dire, on vous dit ces choses pour que vous soyez au même niveau que nous, en communion, c'est-à-dire que vous soyez comme nous, au sujet de toutes ces croyances, au sujet de toutes ces choses concernant Jésus-Christ, que vous sachiez la réalité. Mais maintenant, nous ne sommes plus en communion avec l'apôtre Jean, il est mort. Mais nous sommes en communion avec Jésus-Christ. Alors, il continue, il dit, « Or, c'est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ que nous sommes en communion et nous vous écrivons cela afin que votre joie soit complète. » Alors voilà, je résume, donc Jean, un apôtre de Jésus, a vu, vécu avec Jésus et puis il écrit à ses amis, à des chrétiens, et il leur dit « Je vous dis toutes ces choses pour que vous soyez en communion avec nous, c'est-à-dire que vous sachiez les mêmes choses que nous. » Et nous, il dit là, alors qu'il est vivant, Jean, il dit « C'est avec le Père et son Fils que nous sommes en communion. Et nous voudrions que vous aussi, en quelque sorte, la même chose que nous, que vous aussi, vous soyez en communion avec le Père et avec le Fils. Et nous vous écrivons ces choses afin que votre joie soit complète. » Voilà ce que le texte dit. Et il y a beaucoup de choses sacrées qui ne sont pas enseignées clairement, malheureusement. Ça a été édulcoré, transformé, changé. C'est devenu terrible, c'est dommage. Et je me rends compte de plus en plus depuis que nous avons ouvert une page Facebook Révélation Bible, je reçois des questions, je me dis mais ce sont des croyants et ils ne savent même pas ça. Ça m'effraie à un moment, ça m'effraie parce que je me dis mais quand même, comment se fait-il qu'ils ne savent même pas ces choses de base? Et c'est pourquoi je voudrais vous parler aujourd'hui de choses qui sont importantes à savoir pour que vous soyez en communion avec le Père et avec Jésus-Christ son Fils, mais réellement, pas simplement dans une espèce d'illusion poussiéreuse, de religion plus ou moins bancale, fabriqué comme un échafaudage branlant, voyez? Excusez-moi, j'emploie un langage un peu cru, mais c'est pour que vous compreniez. Voilà, mon but, c'est que vous soyez en communion avec le Père et avec Jésus-Christ son Fils. Voyez-vous, il y a tant de tiédeur dans les actes des chrétiens. Quand on lit dans les Écritures, quand on voit comment ils se manifestaient, les premiers chrétiens, c'était quelque chose, c'était bouillant pour Dieu. Et je pense que ça vient du fait. Oh là là, excusez-moi. C'est quelqu'un qui me téléphone et voilà. Je pense que cette tiédeur, elle vient du fait qu'il y a de la tiédeur au niveau de l'identification. Je vais expliquer ce que je veux vous dire par là. Le secret, c'est de s'identifier à la famille de Dieu. Il est notre Père, et tout chrétien sait ça. On dit toujours notre Père qui est aux cieux. C'est Jésus qui a enseigné cette prière. On sait que c'est notre Père, il est notre Père. Et nous sommes de sa famille, puisqu'il est notre Père, nous sommes ses fils et ses filles. Tout chrétien, c'est ça. Mais les gens ont une culture chrétienne qui est venue se greffer sur la vérité. Et c'est une culture, c'est plus un vécu chrétien. Je veux dire que ils ne se sont pas identifiés à leur grand frère, c'est-à-dire à Jésus. Jésus est notre grand frère, puisqu'il est fils de Dieu. Et maintenant, nous sommes devenus enfants de Dieu, c'est-à-dire fils de Dieu. Alors, nous devons faire comme notre grand frère. Vous voyez? Lorsque vous venez humblement à Dieu, sans prétention doctrinale ou autre, ou de rang, ou de je ne sais quoi, quand vous venez devant Dieu humblement, la vie de Dieu vous est restituée. C'est-à-dire, à cause du péché, vous aviez été éloigné de Dieu, comme tout être humain. Mais maintenant, en venant devant Dieu, la vie de Dieu vous est restituée. Lorsque vous vous identifiez à ce qu'il a accompli, en votre nom, à votre place, lorsque vous croyez qu'il s'est chargé à votre place du châtiment que vous méritiez à cause de vos péchés, alors, voilà ce qui se produit. La justice de Christ vous est attribuée et vous êtes libre de toute culpabilité, vous n'êtes plus coupable devant Dieu et vous êtes libre de toute condamnation, il n'y a plus aucune condamnation pour vous. Dans Jean chapitre 3, verset 18, je crois, il est dit que celui qui croit, il ne passera même pas au jugement dernier. Et Jésus-Christ vient manifester la vie divine en vous et par vous. Et vous n'êtes plus tiède, simplement un chrétien qui pose son derrière dans une église et qui fait des prières et des chapelets, des vendredites et qui est rarement exaucé. Non, la vie de Christ vient se manifester en vous et par vous. Vous êtes restitué à Dieu conformément à son plan initial. Vous êtes pénétré d'une puissance surnaturelle qui fait de vous un fils de Dieu, une fille de Dieu, et ça c'est un miracle. Vous ne devenez pas membre d'un club chrétien qui a pour nom catholique ou protestant ou orthodoxe ou évangélique ou autre, non. Vous êtes reçu dans la famille divine. Vous êtes reçu dans la famille divine, vous devenez un fils, vous devenez une fille de Dieu. Vous êtes fils et fille de votre Père Céleste. C'est plus que d'avoir une religion. Vous n'êtes pas une personne ordinaire. Vous êtes un fils, une fille de Dieu. Vous n'allez pas dans une église, bien que ce n'est pas interdit d'aller dans ces bâtiments appelés église. Non, vous devenez membre du corps de Christ. C'est ce qui est écrit dans la Bible. Vous êtes une partie de lui sur la terre, membre du corps de Christ. Dans l'évangile de Jean, au chapitre 1, verset 12, il est écrit « À tous ceux qui reçoivent Jésus-Christ, Dieu leur donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. » Vous avez ce pouvoir. Recevant Jésus comme votre sauveur, vous devenez comme... Allez, je vais vous choquer un peu, mais c'est pourtant la vérité véritable. En recevant Jésus comme votre sauveur, vous devenez comme Marie, la mère de Jésus. Lisons ce que Marie a dit dans l'évangile de Luc au chapitre 1, verset 47. Beaucoup me disent qu'ils sont croyants, mais ils n'ont même pas une Bible. Il y en a qui m'ont dit « Oui, j'en ai une, mais je ne sais pas où je l'ai mise. » Vous êtes croyant, il faut que vous ayez votre Bible tout le temps à portée de votre main. Moi j'en ai une dans mon bureau, j'en ai une dans mon salon, j'en ai une dans ma voiture, j'en ai une sur ma table de nuit. C'est la parole de Dieu, c'est important pour vous. Alors voyons ce que Marie disait. Luc chapitre 1 verset 47, elle dit « Mon âme célèbre la grandeur du Seigneur et mon esprit se réjouit en Dieu mon Sauveur. » Mon sauveur, Marie appelle Dieu son sauveur. Alors voyez-vous, si Marie était née hors du péché, sans péché, elle n'aurait pas besoin d'un sauveur. Or, elle dit elle-même qu'elle a besoin d'un sauveur, puisqu'elle dit « Mon esprit se réjouit en Dieu, mon sauveur ». Marie appelle Dieu son sauveur. Elle a été sauvée comme tous les autres êtres humains qui croient en Dieu leur sauveur. Elle n'est pas un être supérieur à vous et à moi. Elle est supérieure dans le sens que Dieu l'a trouvée tellement bien qu'il l'a prise pour être la maman de Jésus. Mais c'est pas ça qui fait d'elle une divinité qu'on doit adorer. Elle avait besoin d'être sauvée. Ce qui signifie... Qu'est-ce que ça signifie être sauvée? Ça signifie être sauvée de la damnation. Quand elle dit « Mon esprit se réjouit en Dieu, mon sauveur », elle dit « Mon esprit se réjouit en Dieu qui m'a sauvé de la damnation ». Aujourd'hui, nous sommes le 18 mai, alors que je suis en train de vous parler, et si ma maman était encore de ce monde, elle fêterait aujourd'hui ses 100 ans. Mais elle est décédée. Et elle avait fait la paix avec Dieu il y a de nombreuses années en arrière. Et quand elle est décédée, elle est morte, comme on dit, dans le Seigneur. C'est-à-dire, elle est morte chrétienne, vraiment chrétienne. Et quand elle est morte, où est-ce qu'elle est allée? Eh bien, elle est allée se reposer de ses œuvres au même endroit où se trouve Marie. Elle se repose de ses œuvres comme Marie, comme tous ceux qui sont morts sauvés, croyant en Dieu, leur sauveur. Et ma maman attend la résurrection, comme Marie, comme Osborne, comme Raphaël, comme Violette, comme Camélia, comme tous ceux, comme mon papa, comme tous ceux qui sont sauvés, comme tous ceux qui croient que Jésus-Christ est leur sauveur. Jésus dit, c'est écrit dans Jean chapitre 3, « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » Alors, si tu crois en lui, tu as la vie éternelle, tu es sauvé de l'enfer, sauvé de la damnation. Et tu peux dire comme Marie, « Mon esprit prend plaisir en Dieu, mon sauveur. » C'est une invention catholique qui raconte qu'on peut prier les morts, mais ce n'est pas juste. Étudiez l'histoire, vous verrez, c'est des gens qui ont raconté ça, mais ça n'est pas vrai, ça ne repose sur aucun texte biblique. Les morts se reposent de leurs œuvres, et dis donc, si les morts pouvaient voir ce que vous faites, vous croyez qu'ils seraient dans le repos? Oh non, je crois pas. Je crois pas. Donc, nous n'avons pas à prier les morts. C'est même écrit que c'est une abomination de le faire. Je ne prie ni ma mère, ni Marie, ni Sainte Dugule, ni Séraphin Lampion, personne. Je ne prie que mon Seigneur, mon Sauveur. Et je n'adore que lui seul. Jésus insiste sur cela, nous devons prier et adorer le Père en esprit, en vérité. Écoutez-le quand il dit, les disciples lui disent, comment est-ce qu'on doit prier? Il dit, vous devez dire, notre Père qui est aux cieux. Alors les gens pensent, oh non, vaut mieux s'adresser à la maman de Jésus parce qu'elle est plus gentille, elle est moins sévère. Mais c'est quoi ça? Non, Jésus dit, vous avez accès auprès du Père, vous pouvez prier directement le Père. Notre Père qui est aux cieux, mon Père, aujourd'hui je te prie pour... Et aujourd'hui, mon gendre a été opéré. Eh bien, qui avons-nous prié? Notre Père qui est aux cieux, nous avons dit. Oh, notre Père qui est aux cieux, nous te prions pour notre gendre que nous aimons et nous te demandons de diriger la main des médecins afin que ces chirurgiens fassent vraiment un bon travail. Et nous te le demandons, Père, dans le nom de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Amen. Et puis, nous avons pris des nouvelles et nous avons appris que tout s'est bien passé. Gloire à Dieu. Merci, Seigneur. Toute la gloire revient à Dieu, à personne d'autre qu'à Dieu, notre Sauveur que nous aimons. Vous voyez? Nous prions notre Père au nom de Jésus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire au nom de tout ce que Jésus a été pour nous quand il était sur cette terre, c'est-à-dire notre divin Sauveur. C'est lui qui est mort sur la croix, c'est personne d'autre. C'est lui qui est mort pour que nous soyons sauvés, ce n'est pas Marie. Marie, une épée lui a transpercé le cœur quand elle a vu ça, c'est une horreur. Mais ce n'est pas elle qui nous sauve. Elle se repose de ses œuvres, laissez-la se reposer tranquille. Enfin, de toute façon, même quand vous la priez, elle ne vous entend pas, elle se repose. Vous voyez, votre communion est avec le Père et avec Jésus-Christ, son Fils, qui est ressuscité, qui est vivant. Peut-être que vous n'avez jamais compris cela, et pourtant vous êtes croyant, vous êtes croyant. Et mon ministère, c'est de vous ramener aux Saintes Écritures en vous délivrant de toute tradition humaine plus ou moins juste. Là, au mois d'août, nos frères et sœurs catholiques vont fêter l'Assomption. Savez-vous que cette doctrine, cette croyance, a été officialisée par l'Église catholique en 1950 ? C'est quand même bizarre, non? Alors pendant tous les siècles avant, ce n'était pas une doctrine officielle. Puis tout d'un coup, ils ont décidé. Non, mais ce n'est pas sérieux. Nous devons avoir un absolu pour la foi. Et l'absolu, ce n'est pas les idées qui passent au travers de la tête des gens qui sont là-bas, au Vatican, ou je ne sais où. Non, non, c'est ce qui est dans la Bible. C'est ça notre absolu de foi. Oh, en ce moment, approchez-vous de votre Père Céleste. Vous savez ce que vous allez faire, à moins que vous soyez en train de conduire votre voiture. Vous allez fermer vos yeux, fermez vos yeux. Je vais prier avec vous. On va faire une prière toute simple, mais juste, c'est-à-dire biblique. Vous savez, dans la Bible, il y a un homme qui a prié, il a dit, on trouve ça dans Luc 18, 13, il a dit, « Ô Dieu, aie pitié du pécheur que je suis. » Eh bien, Dieu ne rejette pas celui qui prie comme ça. Pensez aussi au malfaiteur qui était à côté de Jésus sur la croix. Il a prié, « Souviens-toi de moi, Seigneur, quand tu viendras dans ton règne. » Luc 23, 42. Et Jésus lui a dit, « Aujourd'hui même, je te le dis, tu seras avec moi dans le paradis. » Vous voyez, pour être sauvé, vous vous adressez à qui de droit ? Pour être protégé, vous vous adressez à qui de droit ? À Dieu, votre sauveur, celui qui vous sauve non seulement de l'enfer, mais de toute situation pénible et difficile. Vous voyez, il suffit d'une petite prière simple, mais biblique, inspirée par la Bible. Alors pendant que vos yeux sont fermés, répétez cette prière avec moi, à haute voix. Faites-le. Faites-le. Répétez après moi. Cher Seigneur Jésus, je fais appel à ton nom. Pardonne tous mes péchés. Je crois que tu es mort à ma place. Je te reçois comme mon sauveur personnel. Je crois que tu es ressuscité d'entre les morts. Je reçois ta vie maintenant. Je crois que tu me sauves maintenant. Merci Jésus pour mon salut. Amen. Si vous croyez ce que je vous ai dit, et tout ce que je vous ai dit vient de la Bible, et si vous avez prié sincèrement cette prière, alors vous êtes sauvé. C'est-à-dire que vous avez reçu le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et comme le dit Jean, au chapitre 3 de son évangile, vous ne passerez pas en jugement parce que Jésus a déjà été jugé à votre place. Maintenant, vous avez accès auprès du Père. Vous êtes un enfant de Dieu, vous êtes sauvé. Maintenant, il faut que vous adoptiez une règle de conduite. Jésus est le seul chemin à suivre. Il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il n'y a pas d'autre vérité que Jésus. Il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il n'y a pas d'autre vérité. Je suis la vie. Il n'y a pas d'autre vie. Il n'y a pas d'autre Dieu. Il n'y a pas d'autre personne qu'on doit... Non, il a dit, je suis le chemin. C'est-à-dire que nous marchons sur ce chemin, nous avançons sur ce chemin et pas sur un autre. Il n'y a pas d'autre chemin. Il n'y a que lui seul. Je suis le chemin, la vérité et la vie. S'il y a une chose que vous pouvez faire, que Marie a dite quand elle était vivante, quand elle était sur cette terre, elle a dit une chose qui se trouve dans la Bible, dans Jean, chapitre 2, verset 5. Elle a dit, en montrant son fils, « Faites tout ce qu'il vous dira. » Alors là, vous pouvez obéir à Marie. « Faites tout ce que Jésus vous dit. » Mais que ce que Jésus vous dit. Jésus, pas un autre, pas une autre. Lisez la Bible pour savoir ce que Jésus dit. Voilà pourquoi j'insiste tant sur la Bible, parce que c'est dans la Bible que les apôtres ont écrit les choses que Jésus a dites. Alors lisez la Bible et vous apprendrez ce que Jésus a dit. Et vous saurez comment vivre en plaisant à Dieu. Parce que vous ferez sa volonté, vous ferez ce qu'il a dit. Ça n'est pas compliqué, n'est-ce pas? Il est notre sauveur. Voilà mes frères et sœurs. Alors, je sais que beaucoup de catholiques viennent sur Révélation Bible et sont des fois un petit peu déstabilisés par ce que je dis. C'est pourquoi j'ai voulu vous parler à vous en particulier. Moi, je crois que vous êtes mes frères et sœurs, vous croyez en Dieu. Vous êtes mes frères et sœurs, mais vous êtes un petit peu à côté quand même, parce que vous connaissez pas les Écritures. Il y a quelques jours, j'ai mis une photo sur Révélation Bible où on voit Moïse avec le serpent d'airain. Et quelqu'un m'a dit, mais qu'est-ce que c'est ce serpent sur la croix? Et je me suis aperçu que voilà, c'est une personne croyante, absolument croyante, vraiment croyante. Mais elle ne connaît pas la Bible. Au temps de Moïse, il y avait eu, vous savez comment sont les gens, ils étaient sortis d'Égypte, et puis ils ont commencé à dire du mal de Moïse, à critiquer, à faire toutes sortes de bêtises, à pécher et tout. Alors Dieu, pour les punir, a envoyé des serpents, et ils étaient mordus par des serpents, et ils étaient punis par Dieu. Et puis il y en a plein qui mouraient. Alors Moïse est allé sur ses genoux, il a prié, « mon Dieu, t'arrêtes, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut faire ?» Et Dieu a dit à Moïse, « Fais-toi un serpent de bronze, ou d'airain, et puis tu le mets sur un bâton, et quiconque regardera ce bâton sera délivré de la mort. » Alors Moïse a fait ça, et les Juifs qui ont cru ce que Moïse disait, regardaient le bâton et ils étaient guéris de la morsure des serpents. Vous voyez, voilà, ça c'était, vous trouvez ça dans la Bible. Et puis, dans le Nouveau Testament, les apôtres ont repris cette pensée en disant, comme Moïse a élevé un serpent sur un bâton dans le désert, aujourd'hui, Jésus a été élevé sur la croix ou sur le poteau, comme vous voulez. Il a été élevé afin que quiconque regarde à lui, croit à lui, croit en lui, soit sauvé. Voilà l'explication de cette photo que j'ai mise sur Révélation Bible. Vous voyez, manque de connaissance des Écritures, c'est grave. La Bible dit, quelque part, j'ai pas le verset en tête, mais je vous le donnerai un autre jour. La Bible dit... Par manque de connaissance, mon peuple périt. Et il y a beaucoup de gens qui se découragent. Ils sont croyants, et puis voilà que vient une épreuve, et ils sont ébranlés, et ils tiennent bon un moment, puis des fois ils font un naufrage. Il y a une maman qui m'a écrit, et ça m'a bouleversé, je pense tout le temps à cette maman, qui m'a écrit le jour où mon fils est décédé, j'ai jeté ma Bible. Vous voyez, parce que c'est triste. Nous devons être enracinés dans la parole de Dieu, dans la Bible, pour être fermes. Vous connaissez cette parabole où Jésus dit qu'il faut construire non pas sur le sable, mais sur le roc, parce que quand la tempête vient, quand les problèmes viennent et qu'ils nous balayent, c'est fort, tout, eh bien, si c'est construit sur le sable, c'est-à-dire sur la religion, eh bien, on s'écroule. Mais si votre vie est construite sur la parole de Dieu, sur la Bible, sur ce que Jésus a dit, alors vous tenez ferme. Et puis la tempête, elle passe, mais ça vous détruit pas. Puis quand la tempête est finie, ben vous êtes toujours debout. Et c'est ce que je veux pour vous, c'est que vous soyez toujours debout, que vous teniez ferme jusqu'au jour de votre mort, et que ce soit Jésus qui vienne vous chercher à l'heure de votre mort. Vous voyez ? C'est très important, c'est une question de vie ou de mort. Je ne suis pas en train de m'amuser. Je suis en train de vous parler de choses très importantes. Je crois que vous l'avez compris et je vais m'arrêter là maintenant. Que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse. Si je vous ai choqué, pardon, ce n'était pas mon but, mais réfléchissez à ce que je vous ai dit. Réécoutez ce message et réfléchissez. Et si vous n'avez pas fait la prière la première fois que je l'ai faite, vous pouvez encore la faire. Faites-la, faites cette prière, donnez-vous à Dieu réellement, simplement. Amen. Merci Jésus de bénir tous ceux qui sont venus écouter. Et je sais qu'ils sont nombreux. Veuillez les bénir dans le nom de Jésus, mon Sauveur. Amen. Amen. Au revoir.